Bretagne 5, écoutez la Bretagne. Bretagne 5, l'invité de la matinale.
Et notre invité politique ce matin est Bernard Kroguenec. Il est conseiller national des Républicains, également conseiller municipal d'opposition à Saint-Brieuc et j'ajouterai même conseiller communautaire de Saint-Brieuc-Armor agglomération. On parlera des territoires tout à l'heure. Bonjour Bernard Kroguenec.
Bonjour Stéphane, bonjour à tous vos auditeurs.
Alors on va parler de sujets importants pour nous aujourd'hui. On aura un œil sur les élections américaines où il se passe beaucoup de choses aux États-Unis et où on est en train d'acter en fait au moment où l'on se parle la victoire de Donald Trump. Voilà, on pourra en dire un petit mot et l'incidence que ça pourra avoir peut-être sur bien ici en France et plus largement en Europe. Alors je vous demandais juste de vous mettre face au micro parce que voilà notre réalisateur me fait signe qu'on vous entend pas très. Très bien. Bernard Kroguenec, j'avais envie de commencer par le fameux projet de loi de finances qui est toujours en débat à l'Assemblée nationale. On s'achemine, d'ailleurs les députés n'ont pas voté ce matin la partie sécurité sociale. On s'achemine peut-être vers une navette vers le Sénat ou un 49-3, on ne sait pas encore. Ce projet de loi de finances, il est important. Il fallait faire des économies, mais on entend quand même les Français qui ne sont pas toujours très contents parce que faire des économies, ça veut dire peut-être lâcher sur les services publics, ça veut peut-être dire aussi une forme d'austérité.
Michel Barnier, qui a été nommé Premier ministre, a trouvé une situation financière en particulier qui est extrêmement préoccupante, avec une dette donc, qui atteint 3 000 et quelques milliards. Donc il était obligé de faire des coupes sombres, je dirais, dans le budget. Maintenant, quel va être le projet de loi qui va sortir, je dirais. Pour l'instant, on a vu un débat à l'Assemblée nationale qui était quand même un peu hystérique, avec des oppositions extrêmes qui ont proposé des dépenses inconsidérées. Donc il est certain que le projet va être remanié au Sénat, où il y aura certainement une majorité beaucoup plus responsable qui va revoir le projet de loi. Et ensuite, effectivement, sans doute que Michel Barnier va être obligé de le faire passer en 49-3 à l'Assemblée. Mais chaque chose en son temps.
Voilà, chaque chose en son temps, avec tout de même le risque, ou en tout cas, pour Michel Barnier, l'espoir de voir passer son budget par 49-3, le budget qu'il a finalement rédigé, puisqu'on reviendrait au texte initial.
D'accord. Michel Barnier avait prévu de faire beaucoup d'économies et également d'augmenter les impôts, ce qui passait très mal dans l'opinion publique et en particulier même dans sa majorité, y compris chez les Républicains. Donc effectivement, trop d'impôts tue l'impôt, comme on dit. Donc il y a un équilibre à trouver qui est extrêmement difficile et qui ne peut pas faire l'unanimité de toute façon.
Selon vous, alors vous êtes du Parti Républicain, je le disais tout à l'heure, parce que vous êtes conseiller national du Parti Républicain, des Républicains. Selon vous, il a du mérite, Michel Barnier, de s'attaquer ou d'avoir été finalement poussé un peu quelque part en avant pour essayer de sauver la situation?
Il a certainement du mérite et du courage. Il l'a effectivement aussi difficilement, il pouvait difficilement reculer, hein, parce qu'il y avait eu d'autres options qui avaient été envisagées. Et lui-même, comme c'est un homme d'État, à mon sens, il a franchi le pas, il a relevé le challenge. La difficulté pour lui, c'est qu'il a une majorité ou des soutiens qui sont extrêmement fragiles et peu fiables. Mmh. Hein. Et donc, il est obligé de jongler avec aussi un appui des Républicains qui n'est pas non plus absolu, vu qu'en fait, au-dessus de lui, il a aussi un président. Donc, il a une marge de manœuvre qui est limitée.
Marge de manœuvre limitée. Et puis, l'ombre du Rassemblement national qui plane quand même. On a reproché beaucoup à Michel Barnier d'avoir accepté même de parler au Rassemblement national, à Mme Le Pen en l'occurrence.
Question difficile. Madame Le Pen, elle a, avec M. Bardella, ils ont quand même 11 millions d'électeurs de mémoire. Donc on ne peut pas non plus ne pas tenir compte de leurs messages et de leurs attentes et de leurs besoins. Donc l'opposition de gauche et d'extrême gauche a beau jeu de dire que Michel Barnier, quelque part, est tenu par son... Il dépend en partie du Rassemblement national, vu que si le Rassemblement national s'allie avec la gauche, il fait tomber le gouvernement.
Il y a cette crainte-là.
Il y a cette crainte. Mais Michel Barnier, c'est quand même un homme d'expérience, et c'est très bien d'avoir un homme de ce calibre et finalement de cette expérience aussi au gouvernement. Il n'est pas né de la dernière pluie. Disons qu'il a aussi une pratique républicaine. Il faut respecter les institutions. Mmh. Donc, je lui fais confiance, en tout cas, pour naviguer entre ces écueils.
Alors, Michel Barnier et son gouvernement ont demandé à tous de faire un effort pour ce budget, pour pouvoir redresser la barre de la France en termes de déficit. Effort qui se traduit aussi au niveau des collectivités territoriales, des collectivités locales, qui se sentent un peu pointées du doigt et qui alertent en disant, c'est le cas des départements, par exemple, ici dans les Côtes-d'Armor, mais également en Loire-Atlantique ou encore en Ille-et-Vilaine, des présidents de départements qui s'alarment en disant « Attention, si on nous demande trop d'efforts, l'effort au titre des économies s'élève entre 5 et 9 milliards d'euros hein, pour l'ensemble des départements, en tout cas de l'ensemble des collectivités françaises. Donc les présidents de départements alertent en disant « Attention, on n'arrivera peut-être pas à boucler nos budgets ».
Les collectivités locales, effectivement, devront, comme l'État, participer à cet effort. Hier, nous avons rencontré le président du conseil départemental à l'occasion d'une réunion à Effignac au sujet de la Rocade Sud. Ça me permet de glisser sur ce sujet qui m'importe beaucoup. L'achèvement de la Rocade Sud, à mon sens, est indispensable pour l'agglomération et pour la ville de Saint-Brieuc.
Alors, je précise pour nos auditeurs qui sont loin, c'est le contournement de la ville de Saint-Brieuc, hein, voilà.
Par le sud, voilà, pour faire une alternative à la RN12. Et donc, le président du conseil départemental qui a bloqué ce projet depuis un an et demi, bien sûr, a beau jeu aujourd'hui de dire qu'il n'a plus les crédits et que la situation budgétaire l'empêche de cet investissement. Mais c'est aussi une question de volonté et de choix et de décision entre les priorités. Ceci dit, pour revenir, l'agglomération Saint-Brieuc a décidé de reporter de 2 mois le vote du budget. Parce qu'effectivement, cette ponction qui sera faite sur son budget a des conséquences difficiles et lourdes. Et je citerai aussi David Lisnard, qui est le président de l'Association des maires de France, qui n'est pas donc un opposant farouche à Barnier, mais qui lui aussi a tiré la sonnette d'alarme, parce que toutes les collectivités sont touchées, et effectivement, ça leur posera de grosses difficultés. Mais, disons, la situation catastrophique du pays exige des mesures fortes.
Alors, des collectivités qui disent aussi que l'État leur en demande toujours un peu plus, mais sans donner les moyens. Est-ce qu'à un moment ou à un autre, il faudra redéfinir les rôles de chacun ?
Je pense effectivement que les collectivités, aujourd'hui, sont arrivées au bout du bout. C'est-à-dire que, compte tenu de leurs compétences, de leurs missions et des moyens qui leur sont alloués, il y a des choix à faire. Par exemple, l'agglomération Saint-Brieuc, encore dans le domaine social, a pris des missions qui ne relevaient pas de ses compétences. Donc, c'est très bien. Mais le social, alourdit considérablement les budgets. Et c'est vrai aussi dans les départements. Donc, il y a des aides, il y a des allocations qui devront être remises à plat. Parce que, disons, on ne peut pas continuer dans la même voie. Et ce que vous disiez est vrai. C'est-à-dire remettre à plat un peu les missions, les compétences et les moyens qui leur sont alloués.
Alors, il y a une forte, néanmoins, il y a une forte demande sociale, on l'a vu lors des dernières élections, cette poussée du Rassemblement National, 11 millions d'électeurs hein, ont voté pour le Rassemblement National, vote de colère, vote de rejet, ça sonne un petit peu, on est un petit peu en parallèle avec ce qui se passe aux États-Unis, je le disais en commençant, on a un œil hein, sur ce qui se passe là-bas, avec un retour de Donald Trump, d'une forme de populisme. Est-ce qu'on peut craindre la même chose aujourd'hui en France ?
Ce qui se passe aux États-Unis souvent se répercute en France avec un délai de 10 ans, de 5 ans. Donc on peut craindre effectivement, je pense au Bukin par exemple qui est arrivé en France avec un décalage, et on peut craindre que ce qui se passe aux États-Unis arrive en France. Mais en vous écoutant, c'est vrai qu'il faut entendre aussi les voix des gens qui ont aujourd'hui des difficultés de vie quotidienne. Mmh. C'est-à-dire que les besoins de base, c'est le logement, l'emploi et l'alimentaire. Et quand ces besoins ne sont pas satisfaits, et c'est malheureusement pas le cas en France, hein, parce que, par exemple, le logement aujourd'hui, c'est une bombe sociale. C'est incroyable qu'on soit arrivé dans une telle situation. Donc quand ces besoins primaires, je disais, ne sont pas satisfaits, les gens, ils votent pour ceux qu'ils n'ont jamais vu au pouvoir avant. Mmh. Et c'est un peu l'élection de Donald Trump aujourd'hui. C'est les classes moyennes ou basses américaines qui l'ont élu, enfin qui ont pesé. Et en France aussi, il faut être conscient. Et on revient à la question de tout à l'heure. Le RN aujourd'hui, à Saint-Brieuc, c'est 24-25%. Donc ça pose question, ça interroge. Pourquoi ? Il n'y a pas 24 ou 25% de racistes à Saint-Brieuc.
Mmh. C'est un désir social, c'est un rejet, on pourrait le traduire comme ça, de la politique d'avant. Ça interroge aussi sur la manière de faire de la politique ?
Absolument. Ça interroge. C'est certainement un échec pour les politiques qui ont été menées, alors je dirais depuis 40 ans, qu'on soit arrivé aujourd'hui à un Rassemblement National aussi haut dans les... Et là, c'est pas dans les sondages, c'est dans les urnes. Ça pose question et ça oblige à changer de braquet sur certaines politiques. On ne peut pas continuer avec les mêmes raisonnements angéliques, je dirais, que l'on tient, par exemple, sur la sécurité depuis 40 ans. Hein. On parle encore, Jospin parlait de sentiment d'insécurité. Aujourd'hui encore, des élus responsables parlent de sentiment d'insécurité. Mmh. C'est pas un sentiment, c'est une réalité. Et donc, il faut, et il suffit pas de le dire, il faut agir derrière pour que les gens se voient qu'il y a des résultats, qu'il y a un changement de cap.
Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur, s'est rendu à Rennes vendredi dernier en promettant de renforcer la sécurité, en promettant de nouveaux effectifs et en promettant une lutte implacable contre le trafic de stupéfiants qui gangrène plusieurs villes de l'Ouest. Et on parle beaucoup de Rennes après ces fusillades et ce jeune garçon de 5 ans qui a été grièvement blessé lors d'une fusillade. Est-ce que là, c'est aussi un des enjeux de demain, la sécurité et cette lutte contre le trafic de stupéfiants?
Bruno Retailleau est venu à Rennes et il a tenu des propos assez fermes sur la sécurité, sur la justice. Je pense qu'il est dans la droite ligne de ce qu'il a toujours dit, c'est-à-dire qu'il veut des résultats. En particulier donc, sur les narcotrafiquants. Il espère, hein, je l'ai écouté à Rennes vendredi soir, avoir des résultats parce qu'il peut, sur un sujet qui est relativement important et qui devrait faire l'unanimité chez les hommes politiques, il devrait avoir une majorité qui le soutienne. Autant sur l'immigration, c'est un dossier clivant et il y a des positions qui sont plus éloignées, mais sur la lutte contre le narcotrafiquant, comme ça a été le cas sur la lutte contre le terrorisme, il devrait y avoir une quasi-unanimité des hommes politiques responsables derrière lui. Donc il peut avoir des résultats.
Il faut abandonner les postures politiques, les dogmes des uns et des autres pour avoir en fait une forme de transpartisanisme dans cette lutte contre le trafic de drogue.
ce serait bien, et c'est ce qu'il souhaite, et je pense qu'on peut espérer que des hommes politiques de gauche, raisonnables, écologistes aussi, soient en soutien, disons qu'ils n'ont pas... Ils le critiquent beaucoup, et ça me plaît que Retailleau soit bien critiqué, parce que ça montre qu'il touche des domaines, et il a aussi la majorité des Français derrière lui. Mmh. Donc, les hommes et les femmes... politique devrait être, je dirais, pour beaucoup, en positif, enfin, disons, favorable à ces mesures-là.
Alors, ça va être aussi un enjeu pour les municipales de 2026, on va y arriver très vite, finalement, à peine une année pour une campagne, et puis pour poser des idées, pour poser des projets également, proposer des projets. Vous y pensez aux municipales de 2026, à Saint-Brieuc en particulier ?
Alors, à Saint-Brieuc, nous avons une situation qui est un peu difficile pour l'instant. Moi, ce que je souhaite, en tout cas, c'est qu'il y ait une alternance, hein, que la majorité plurielle aujourd'hui qui regroupe la gauche, donc hors LFI pour l'instant, ne soit pas renouvelée. Et une des conditions, un préalable à une victoire, une alternance, c'est l'union. Hein, mmh. Donc il faut une union du centre et de la droite. Donc moi, j'y suis prêt à... Enfin, disons, j'y travaille. Et il y a des initiatives qui se prennent, qui sont intéressantes. Des initiatives, je dirais, transpartisanes. Mm-hmm. Parce qu'au départ, ce qu'il faut, c'est avoir un projet pour la ville, avoir des idées sur la plupart des thèmes, et puis aussi recueillir l'avis des habitants, hein, qui a évolué depuis, mm-hmm. Depuis 6 ans. Et donc, il faut créer un collectif, un groupe, des groupes de réflexion qui préparent un projet pour 2026.
Alors, on parlait de la sécurité tout à l'heure. C'est un enjeu aussi à Saint-Brieuc, la sécurité, le bien-vivre, comme l'on dit.
J'ai été contesté au début du mandat parce que j'avais pris des positions assez fortes sur la sécurité. Et la situation, elle s'est beaucoup dégradée depuis 2020, depuis 4 ans. Comme je disais, ce n'est pas un sentiment, c'est une réalité. Il y a des liens aussi entre la sécurité et les populations que nous accueillons dans la ville. Il ne faut pas le nier. Donc, il y a des mesures à prendre. Et le maire actuel, donc, qui est ancien président de la Ligue des droits de l'homme, a, par idéologie, refusé toute nouvelle mesure de pose de vidéosurveillance. C'est idéologue, c'est pas acceptable. Donc il y a des mesures qu'il faut prendre, il y a des actions. Il a renforcé la police municipale, ce qui est très bien, donc il faut aussi reconnaître. Mais il y a une politique vis-à-vis de la sécurité et vis-à-vis de l'accueil des populations étrangères qu'il faut revoir, en accord bien sûr avec l'État.
Alors justement, l'accueil des populations étrangères, c'est ce fameux dossier de l'immigration que d'aucuns, lorsque l'on parle un petit peu en off, parlent de dossier casse-gueule, hein, je reprends les termes. L'immigration aujourd'hui, c'est l'affaire de l'Europe plus que des États, par exemple, ou de la France.
Il y a aussi, disons, un cadre juridique qu'il faut revoir. Et Retailleau, Bruno, en a parlé à Rennes, c'est-à-dire que la France seule ne peut pas lutter contre l'immigration illégale. Il y a des textes européens qu'il faut revoir. Il a beaucoup été critiqué parce qu'on disait qu'il remettait en cause l'état de droit. En fait, non, il faut respecter l'état de droit, mais quand l'état de droit ne protège pas la population, il faut le faire évoluer. Et en particulier, il y a une question vendredi qui a été évoquée, c'est la CEDH, hein, la Commission européenne des droits de l'homme, qui aujourd'hui empêche la France de prendre des mesures, parfois, ou des lois. Donc il faut revoir au niveau européen d'abord.
Comment faire pour accueillir aussi des populations qui sont sur notre territoire, pour les intégrer, pour les assimiler, disent certains même. On accueille mal en France aujourd'hui ceux qui arrivent d'ailleurs.
Je pense qu'on accueille mal, effectivement. On ne peut pas se satisfaire de la situation. Par contre, on accueille trop. Hein, et c'est ce que dit, entre autres, M. Retailleau, disant qu'il faut revoir, on a aujourd'hui atteint une limite. On ne peut déjà pas loger les gens qui sont en France, on ne peut pas les instruire, il y a des problèmes à l'école, il y a des problèmes dans les prisons qui sont surchargées, il y a des problèmes de justice, donc stop à l'immigration illégale déjà, et régulons l'immigration légale, en fonction de nos besoins, en fonction de nos capacités d'intégrer, ou, ou d'accueillir en tout cas. Donc, et sur ce sujet-là, il est vrai que Bruno Retailleau ne pourra pas avancer beaucoup, parce qu'il n'a pas de majorité en soutien. Donc, et c'est tout le difficulté d'être au gouvernement aujourd'hui.
Alors, Bernard Croguenel, je vais vous demander d'être un petit peu en face du micro, parce que notre réalisateur nous dit qu'on vous entend un peu moins bien, mais on comprend votre propos, c'est ça l'important. Les territoires ultramarins font aussi face à une forme d'immigration, c'est le cas à Mayotte, par exemple, avec l'immigration en provenance des Comores, avec son lot de drames aussi, 25 personnes sont décédées hier lors du chavirage d'une embarcation. Aujourd'hui, on a le sentiment aussi que la France a un peu oublié ces territoires ultramarins. On a beaucoup parlé, vous vous étiez exprimé lorsque vous étiez venu il y a quasiment un an ici à Bretagne 5, autour de la situation de la Nouvelle-Calédonie. Beaucoup de choses ont changé aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie, mais rien n'est fait.
La Nouvelle-Calédonie a connu une crise très grave en 2024, depuis le 13 mai, vu qu'il y a eu le dégel du corps électoral qui a été initié. Et malheureusement, ça a crispé et ça a réveillé des colères des indépendantistes. Donc, la situation est extrêmement dramatique là-bas. Y a le ministre de Dom Tom qui est passé il y a 15 jours, Monsieur Buffière, et sa visite a beaucoup déçu les loyalistes, parce qu'il faut prendre conscience que la situation économique est vraiment dramatique. C'est-à-dire que des entreprises ont brûlé, des centres commerciaux, la santé est à plat, les médecins métropolitains sont beaucoup rentrés en métropole. Dans la brousse, il n'y a plus de... Enfin, le système santé est à plat. Donc ça, c'est une chose. Et deuxième, les indépendantistes ont des exigences qui sont totalement... je dirais inacceptable, et surtout aujourd'hui ils se posent en victime, ils ont la même inversion des valeurs qu'en France à la France insoumise, c'est-à-dire qu'ils se posent en victime alors que ce sont eux qui ont tout cassé et qui ont tiré sur les gendarmes, etc. Donc il y a une inversion des valeurs et il faut vraiment que l'État, le gouvernement, et je fais confiance, le président du Sénat et le président de l'Assemblée nationale vont y aller en mission la semaine prochaine, pour qu'ils prennent vraiment conscience de la difficulté et surtout qu'on trouve des solutions. Et c'est ça qui est extrêmement complexe.
Le dialogue n'est pas encore rompu, mais il est difficile.
Le dialogue est très difficile et le dialogue entre les indépendantistes et les loyalistes, il n'a pas eu lieu ces dernières années. Monsieur Darmanin, il a fait du en même temps. C'est-à-dire qu'il a discuté avec les indépendantistes, il a discuté avec les loyalistes. Et il leur a fait croire aux uns et aux autres qu'il allait leur donner satisfaction. Et moi, j'ai été surpris en mai 2023 quand je suis allé là-bas. L'action de Monsieur Darmanin était vantée par les loyalistes, parce qu'ils avaient l'impression qu'ils les soutenaient. Mais les indépendantistes aussi avaient l'impression. Et donc, ça a clashé en mai 2024. Ça a explosé, parce qu'on ne peut pas donner satisfaction aux deux camps. Il faut qu'il y ait des compromis.
On parlait des territoires ultramarins plus largement, on le voit aussi en Martinique où il y a des révoltes. Alors cette fois-ci, c'est le coup de la vie qui a cristallisé la colère des habitants. Aujourd'hui, est-ce que on a quand même l'impression d'une France à deux vitesses, la France ultramarine et la France métropolitaine, mais on pourrait aussi peut-être élargir aux régions. Souvent, on s'aperçoit qu'il y a des disparités entre régions. Est-ce qu'il faut repenser le territoire français aujourd'hui, y compris ultramarin? Vaste question.
Vaste question. Et j'ai des connaissances, mais limitées. Par contre, sur la Martinique, où j'ai vécu aussi, C'est vrai qu'il y a une colère due au coût de la vie, mais il faut savoir que c'est des situations très particulières. Là-bas, les fonctionnaires français sont payés 40% de plus qu'en métropole. Donc le coût de la vie, inévitablement, il est plus élevé qu'en métropole. Mais les SMIC sont au même niveau. Donc il y a des inégalités qui sont encore plus flagrantes qu'en France. Et il y a aussi des colères qui s'expriment. Comme en France, la société s'est radicalisée. Là-bas aussi, ça s'est radicalisé. Donc il y a des positions extrêmes. C'est extrêmement complexe, d'où la tâche de notre gouvernement qui est ardue.
On parle d'une fracture ici en France. Ça nous amène, et on va conclure là-dessus, ça nous amène aux États-Unis, où au moment où l'on se parle, Donald Trump s'exprime et évidemment fait part de sa victoire, une victoire jamais vue, a-t-il dit. Hein. Je reprends les comptes rendus des agences. Donc, il va y avoir du changement avec l'arrivée de Donald Trump. Changement qui va avoir des répercussions, évidemment, chez nous en Europe et aussi en France.
Certainement, on a vu les prévisions des experts qui disaient qu'il n'y aurait pas beaucoup de changements, qu'il y aurait beaucoup de changements selon la personne qui parlait. Là, on va aller voir les changements parce que bon, Trump donc, a gagné. C'est inquiétant parce que le personnage est quand même particulier. Donc, sur les conséquences, disons, il faut attendre. Maintenant, je n'ai pas de compétences particulières pour répondre, mais c'est aussi le résultat de la présidence Biden. On nous avait présenté Biden comme un bon président. En fait, il était sénile. Et donc, ils l'ont caché aux Américains. Nous, ils nous l'ont caché, c'est pas grave. Mais les Américains qui votent, ils se sont bien rendus compte qu'ils avaient été bernés. Donc, c'est aussi une colère parce que c'est une manque de confiance vis-à-vis des institutions. Donc, respectons les institutions, attendons, mais effectivement, ça aura des conséquences très importantes pour l'Europe et pour la France. Ouais.
Avec une Amérique à deux vitesses, on a l'Amérique de la côte est, de la côte ouest, puis on a l'Amérique rurale. On a le sentiment que ça ressemble un peu à la France quelque part, même si, comparaison n'est pas raison. Mais avec deux Amériques, comme on a un peu ici deux France, une France rurale, une France des villes, est-ce que c'est dangereux de jouer sur ces déséquilibres, on pourrait le dire comme ça?
C'est dangereux, certainement, que, en particulier, les extrêmes jouent sur ces oppositions entre le rural, et on le voit au travers des votes, des résultats, qui sont de plus en plus marqués entre les métropoles et le milieu rural. Donc, il faudrait, au contraire, apaiser et chercher des moyens, je dirais, de rapprocher les positions. Donc ce qui se passe aux États-Unis, comme le wokisme, ça arrive en France. Mais il y a un tel décalage entre une ville comme Rennes et la Bretagne, le centre de Bretagne par exemple, ils ne vivent plus dans le même monde les gens. Donc c'est tout aussi l'importance du politique pour justement réconcilier ces besoins, ces personnes, ces populations je dirais.
Voilà, faut changer de paradigme, changer de façon, là encore, de faire de la politique sur les territoires.
Facile à dire, et en fait, les réflexes reviennent, mais il y aura forcément quand même, compte tenu, Trump aux États-Unis, c'est un tremblement de terre, quelque part, parce que c'est pas le Trump de 2016 qui revient. Et en France aussi, on aura peut-être un tremblement de terre dans les années qui viennent avec le Rassemblement National, qui n'arrête pas de monter, parce qu'on ne fait pas les politiques qui permettraient justement de stopper sa progression, et en particulier sur la sécurité et sur l'immigration et sur le logement. Et voilà, donc...
Écoutez ce que disent les Français, finalement.
Absolument.
Et c'est là-dessus que l'on va conclure. Bernard Kroguenec, conseiller national Les Républicains, conseiller municipal d'opposition à Saint-Brieuc, conseiller également communautaire de Saint-Brieuc-Armor Agglomération. Voilà, je vous ai donné tous vos titres. Merci infiniment d'avoir été avec nous ce matin. On a eu un œil un peu sur ce qui se passait outre-Atlantique et on va suivre évidemment le dossier et on reste évidemment ancré dans notre région et ça c'est important également dans nos territoires. Merci infiniment d'avoir été avec nous.
Merci de votre invitation et bonne journée à tous.
Bonne journée.
Pour réécouter les émissions de Bretagne 5, rendez-vous sur bretagne5.fr.